Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.
Sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, également sur Radio Saint-Ferréol 94.2, nouvel épisode de Biotope en direct du monastère de Sainte-Croix avec ses petits oiseaux et avec Stéphane Hugan. Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Merci. Tu vas nous faire une présentation de ce lieu, l'ancien monastère de Sainte-Croix que tu as repris en co-gestion avec ton partenaire que tu vas pouvoir citer parce que je...
Alors le co-gestionnaire c'est Frédéric Sauvage, voilà, on a repris l'affaire fin 2010, début 2011. L'association qui nous a précédé s'appelait l'ADCAVL, qui a géré le lieu pendant près de 30 ans. Et donc nous, on a repris en début 2011 avec des gros travaux intérieurs parce que l'ancien monastère avait souffert un petit peu des intempéries et autres problèmes électriques ou plomberie. Et donc on a remis un petit peu le bâtiment en état et on a ouvert la saison donc à avril 2011.
Donc il y a eu... Tu le dis, une première étape de travaux en fait pendant un bon moment. Parle-nous un petit peu de cette co-gestion. Vous n'êtes donc pas propriétaire du lieu.
Tout à fait. Donc nous, on est une association locataire-gestionnaire. Donc on a affaire à une association propriétaire qui s'appelle le Foyer de Sainte-Croix, qui est propriétaire depuis 1974 du bâtiment, qui a commencé par en faire une home pour handicapés. Et puis après, les normes sont venues mettre le verre dans le fruit, comme on dit. Et donc, ils ont dû arrêter. Donc après, c'est la DCAVL qui a géré le lieu, qui a créé un centre d'accueil international. Et nous, on a poursuivi cette fonction-là de centre d'accueil international en accueillant notamment des stages de groupe à vocation culturelle. Donc, qui dit culturel dit des stages de théâtre, de danse, de musique, de chant, et puis également des groupes qui viennent aussi pour faire des fêtes, on va dire plus familiales, style anniversaire, cousinade, mariage, voilà, ce genre d'événements.
Et puis plein de mises à disposition, on va rentrer dans les détails peut-être après. Stéphane Hugan, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Comment est-ce que tu en viens à faire de la gestion d'un lieu pareil?
Alors moi, c'est vrai que je viens plutôt du milieu de l'animation socio-culturelle, animateur pendant plusieurs années. Et puis j'ai géré plusieurs associations, notamment en milieu rural. Et ça s'est fait un petit peu par hasard. C'est vrai que moi, je suis tombé un peu en amour de ce bâtiment, mais il y a plus de 20 ans en arrière, puisque j'ai travaillé pour la DCAVL, mais c'était du côté de Pouet-de-Sélar à l'époque. Et je venais de temps en temps dans le Diwa pour faire une petite balade avec les amis. Et j'avais découvert ce village il y a plus d'une vingtaine d'années. Effectivement, j'avais trouvé ce lieu assez charmant. Donc je m'étais dit, pourquoi pas un jour, si je peux travailler ici, pourquoi pas quoi. Et puis j'ai rencontré Thierry Patonnier, qui était l'ancien gestionnaire, que Frédéric connaissait aussi par ailleurs, pour d'autres raisons. Et puis voilà, c'est les hasards de la vie qui ont fait qu'on s'est retrouvés fin 2010 et se dire on y va pas, oui peut-être, mais bon, vu la taille du bâtiment, vu l'ampleur des travaux, que ça soit Fred ou moi, on ne se sentait pas d'y aller seul. Donc on s'est dit allez, on y va à deux et on va créer une association et on va aller chercher notre employeur. Donc on est allé chercher 4 coprésidents pour constituer la première base à l'édifice, hein, d'avoir un employeur, des employés et puis faire tourner la baraque, quoi.
Tu es employeur ou employé aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je suis employé. En fait, je l'ai toujours été, hein. J'étais bénévole dans les 3 premiers mois de 2011, hein, puisque je travaillais par ailleurs à la Croix-Rouge, à la Rocoubeau. Fred avait un bureau d'études sur 10. Donc, on est venu bénévolement pendant 3-4 mois pour mettre la main à la pâte. Et puis après, petit à petit, on a salarié les gens qui étaient un peu à l'initiative du projet, quoi.
Est-ce que maintenant, tu pourrais nous faire un petit historique du lieu rapide, hein, sur justement toute son histoire d'accueil, etc. Et pourquoi est-ce que, pour vous, il est évident de continuer cette démarche-là et pas d'en faire... Bon, on va décrire un peu aux auditeurs qui peut-être connaîtraient pas, mais c'est un lieu assez magique, ça pourrait être complètement fermé, et juste un hôtel de luxe par exemple.
Ça aurait pu, donc fin 2010-2011, si effectivement d'autres personnes s'étaient présentées pour reprendre l'affaire. Il faut savoir quand même que c'est un bâtiment qui date du 12e, que ça a toujours été un lieu d'accueil, puisqu'en fait c'était tenu par des moines antonins, et les moines antonins étaient des moines hospitaliers, donc qui étaient là pour soigner des gens malades. C'était le mal de l'ergot de seigle, comme on disait à l'époque, hein, le feu ardent. C'était une maladie assez terrifiante. Après les moines, il y a eu les ursulines, et les ursulines aussi ont fait de la... ont reçu des hôtes, et puis après les handicapés, et puis ensuite la DCVL, et puis ensuite les amis du monastère. Donc c'est, on va dire que c'est 8-9 siècles d'histoire d'accueil de l'autre, quoi, l'accueil de l'étranger. Quoi.
Et pas de l'accueil que de l'étranger fortuné, hein, on est bien d'accord.
C'est vrai que vu les prix qu'on pratique ici, on fait partie de la convention tourisme social et familial, donc on est un peu obligé de pratiquer des prix qui restent dans des... proportion honorable, on va dire.
C'est bien pour ça qu'on s'intéresse un petit peu à votre travail ici à l'ancien monastère de Sainte-Croix. Tu as bien fait de citer l'association que je ne connaissais pas, les Amis de l'ancien monastère, c'est donc ça?
Non, nous c'est les Amis du monastère, hein, l'association locataire, et l'association propriétaire c'est le foyer de Sainte-Croix.
Oui. Et le site s'appelle l'ancien monastère de Sainte-Croix.
Le site s'appelle l'ancien monastère de Sainte-Croix, et aujourd'hui on a pour projet de passer d'association en SIC, donc société coopérative d'intérêt collectif, donc en fait de passer de l'ancien monastère au nouveau monastère ou au monastère futur, de qu'est-ce que pourrait devenir le monastère dans les 5-10 prochaines années, quoi.
Alors, j'ai envie qu'on s'intéresse à tout ça dans le cadre de cette émission, l'économie sociale et solidaire comme on aime l'appeler.
Tout à fait. Donc on a effectivement une gouvernance un peu spécifique, enfin de plus en plus répandue maintenant. Effectivement, on a 4 coprésidents, enfin aujourd'hui 3, mais bon, on va essayer d'en récupérer un quatrième, d'avoir donc 2 co-gestionnaires. L'idée, effectivement, c'est d'avoir un partage des responsabilités, des pouvoirs, si je puis dire, des responsabilités surtout, puisque c'est une grande aventure, c'est un bateau qui a pris l'eau pendant plusieurs années, et ben, pour le remettre sur les rails, comme on dit, eh ben c'est pas facile. Seul, on n'y arrive pas. Donc, l'idée, c'est de faire à plusieurs et de s'associer aussi à des qualités, des compétences locales. Et là-dessus, on a une chance inouïe. C'est qu'on est dans une vallée de Quin très dynamique. On a eu le soutien des habitants de la vallée et pas seulement, même des gens de l'extérieur qui viennent régulièrement faire ce qu'on appelle des chantiers participatifs, donc des chantiers de bénévoles, pour remettre en état le lieu, pour entretenir les jardins. Donc ça, généralement, on fait deux chantiers collectifs par an avec des bénévoles.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous organisez. Et quand on a parlé tout à l'heure de la restauration du lieu, ça a été fait aussi bénévolement, en fait?
Alors, une partie a été faite bénévolement. Une autre partie, bien sûr, a été faite par des professionnels. Et puis aussi par le propriétaire. Hein. Quand on est arrivé, nous, l'exigence qu'on avait, c'était de refaire une des 3 toitures qui menaçait vraiment de s'effondrer sur le monastère. Et donc, la toiture de la salle parquet a été refaite à neuf. Ça, c'est le propriétaire qui a pris en charge les travaux. Et puis, petit à petit, ben, effectivement, des bénévoles sont venus donner un petit coup de main à la chaux, sur des murs intérieurs, sur l'entretien courant, on va dire, régulier. Et puis, petit à petit, on a constitué une équipe. Et là, maintenant, on va dire qu'on professionnalise un petit peu
les bénévoles.
Oui, enfin, si on veut. En tout cas, on fait la part des choses. Il y a un côté professionnel et on embauche du personnel à l'année, si possible. Et puis, on a le soutien des bénévoles qui viennent ponctuellement donner un petit coup de main pour embellir le lieu, quoi.
Ces bénévoles, ce sont ceux de l'association
Les Amis du Monastère. Tout à fait.
Vous organisez pas, par exemple, vous prenez pas des chantiers de gens disant, tiens, là, on a besoin de gens, il faut...
Alors, on a eu effectivement des jeunes qui sont venus, notamment l'an dernier, de Saint-Étienne et puis du Québec, qui sont venus faire un chantier d'insertion, on va dire... Voilà, d'insertion. Effectivement, entretenir les jardins, puisqu'il y avait du mal de fait dans ces jardins. Et on n'avait pas eu beaucoup de temps jusqu'à présent pour s'en occuper. Donc, on essaie de concilier à la fois les gens qui travaillent ici à l'année, à la fois des professionnels, donc artisans du coin, et également des gens du village pour les associer un petit peu au projet. Et que ce monastère, finalement, c'est un bâtiment, c'est un patrimoine qui appartient à la commune de Sainte-Croix, mais qui appartient aussi aux Diwa, quoi. Voilà.
Est-ce que tu peux maintenant nous parler de votre spécificité, cette offre culturelle qui est de plus en plus grandissante d'ailleurs ici, et puis évidemment, tu l'as un peu annoncé au départ, mais de tout ce qui est proposé ici, en lien avec cette émission, évidemment, Biovallée, comment est-ce que vous créez ce tourisme vert, on va dire, ou alors ces prestations vertes?
Alors, c'est vrai que petit à petit, on essaie effectivement de s'entourer et de travailler avec des partenaires locaux. Tu as cité la Biovallée, bien sûr. Il faut citer également le parc. Depuis cette année, on a la marque Parc.
La marque Biovallée plus la marque Parc.
Alors, on est adhérent de... Voilà. Donc, on doit respecter un cahier des charges. Et ce cahier des charges, bah, effectivement, c'est effectivement tout autour de, notamment de l'environnement et de ce qu'on va utiliser comme matériaux pour le bâtiment, de ce qu'on va utiliser aussi comme nourriture à mettre dans l'assiette pour nos clients. Donc, c'est vrai que de plus en plus, on va vers, on va dire, des produits locaux, vers des produits bio. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Hein. On va dire qu'on est passé de 0 à 37% pour être précis l'année dernière en termes de produits bio et locaux. Et l'idée, l'objectif par exemple de cette année, c'est de passer à 50% et puis progressivement de monter en puissance pour arriver à proposer à nos clients un produit de qualité qui soit reconnu et voilà, qui puisse attirer de futurs nouveaux clients. Quoi.
Et la question de la gouvernance aussi s'est traitée dans ces points-là ?
La gouvernance, effectivement, c'est important, hein, puisque le projet de passage association SIC, hein, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, là encore, la gouvernance, c'est une personne égale une voix. Hein. Une personne va prendre, par exemple, une part sociale, ou deux parts sociales, ou 10 parts sociales. Eh bien, quel que soit le nombre de parts sociales, elle aura le même poids que son voisin ou sa voisine. Hein. C'est un homme ou une femme égale une voix. Voilà.
On poursuit sur, je t'avais coupé, sur ce tourisme un peu vert. Donc, la marque Parc, par exemple, qu'est-ce que c'est ?
Alors la marque Parc, eh bien, effectivement, on est très proche du Vercors, hein, puisqu'en fait Sainte-Croix fait partie du parc national
naturel régional,
pardon, du Vercors. Donc on est vraiment à la porte, on est à la porte du Vercors, on est à la porte du Diois géographiquement, hein, et c'est vrai que ben, on a des exigences quant à l'accueil des gens, quant à on accueille notamment des randonneurs, des cyclistes qui font un petit viron sur le Vercors, puis qui redescendent dans la vallée, et puis voilà, ben, qui s'arrêtent ici pour passer un court séjour, 2-3 jours, 2-3 nuitées, avec l'hébergement, donc restauration comprise.
Et après, dans vos projets propres, comment est-ce que vous vous inscrivez dans du développement durable et dans...
Bah, l'idée, c'est d'avant tout de constituer une équipe qui puisse durer dans le temps. Donc, on a commencé avec des contrats saisonniers, et puis petit à petit, on a fidélisé, si je puis dire, les salariés qui ont commencé dans l'aventure. Donc, au jour d'aujourd'hui, déjà...
Comment on fidélise ?
Eh bien, on essaie de les associer au projet. Et c'est vrai que c'est un projet qui est ambitieux, qui est assez énorme, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et l'idée, bah, c'est de se dire, bah, voilà, on ne vient pas au monastère uniquement pour faire son taf. Il y a un petit peu essayer de trouver le supplément d'âme. Qu'est-ce qu'on peut trouver derrière le travail qu'on peut faire ici au monastère de Sainte-Croix ? Donc au jour d'aujourd'hui, bah, on a 4 salariés à l'année. L'objectif pour l'année prochaine, c'est peut-être d'en avoir 5, 6, pour travailler sur tout le bâtiment, aussi bien sur l'aspect accueil, sur l'aspect entretien, sur l'aspect espace vert. Voilà. Donc ça fait que 3 ans qu'on est là, hein, donc de fait, ça ne va pas se faire en claquant des doigts et avec un coup de baguette magique, quoi.
Mais comment tu fais ce casting pour être sûr que les gens vont se... Est-ce que vous mettez des critères du coup ?
Quand on recrute du monde, il y a toujours une part d'inconnu. Hein. C'est vrai que c'est... Il y a l'aspect humain, j'allais dire. Donc bah, on fait confiance aux gens. Hein. Je crois que c'est la première chose à faire, hein. C'est de faire confiance aux gens, c'est de voir ce dont ils sont capables de faire, de donner. Et il faut que ça soit gagnant-gagnant. Il faut que les gens puissent s'y retrouver, qu'on essaie d'adapter aussi. Chaque année, on fait une réunion d'équipe en début de saison. En fin de saison, on fait un bilan, on voit ce qui va, ce qui ne va pas. Et on essaie d'ajuster au mieux, d'améliorer les conditions de travail des uns et des autres pour effectivement que les gens aient envie de revenir, aient envie de poursuivre l'aventure et éventuellement... aient envie de s'investir un peu plus. Mais bon, voilà, ça, c'est... c'est pas gagné d'avance, quoi. Hein, tout est remis en cause chaque année, mais c'est le challenge, quoi.
Ouais, c'est la joie en fait de cette économie sociale et solidaire, en fait. Hein, c'est souvent la même description qu'on nous fait.
Ouais, c'est ça. Rien n'est gagné d'avance. Tout est à remettre sur la table chaque année, mais c'est en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est le défi, quoi. C'est de se dire, bah, finalement, rien n'est acquis, rien n'est figé. Nous, on n'est que locataire. Hein, l'aventure pourrait s'arrêter du jour au lendemain. C'est vrai, et en même temps, ça l'est un peu moins depuis fin février dernier, puisque en fait, fin février dernier, on a signé un bail de 21 ans. Oui, alors qu'on était sur un bail précaire de 3 ans auparavant. Donc un bail de 21 ans, c'est un bail à construction. En fait, clairement, c'est un bail qui permet aux amis du monastère de devenir propriétaires pendant 21 ans et d'assumer tous les travaux, et surtout les gros travaux, inhérents au bâtiment. Donc les toitures, l'isolation, les fenêtres, le drainage de la cour, les espaces verts et j'en passe, la sécurité incendie. Voilà. Donc pendant cette période, à nous de relever les manches et le défi pour que ce bâtiment devienne un petit peu plus accueillant, plus confortable, tout en gardant son esprit monacal.
Et puis du coup, vous êtes indépendant pour faire les choix que vous voulez, je veux dire en matière d'énergie, en matière de d'isolation, enfin tout. Alors,
l'idée, voilà, mais l'idée quand même est d'aller vers des énergies renouvelables, hein, si possible. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on chauffe avec du fioul, c'est un peu, voilà, ça c'est un peu la bête noire. C'est pour ça qu'on n'ouvre pas l'année. Hein. On ouvre effectivement d'avril à mi-novembre parce que un problème de chauffage, c'est coûteux, les toitures sont foutues, les fenêtres sont poreuses, donc ce serait une dépense énergétique énorme et ça ne va pas bien dans le sens qu'on veut donner au bâtiment. Quoi. Donc l'idée, c'est effectivement peut-être à terme, hein, c'est l'idéal, ça, hein, ça serait de passer sur du bois déchiqueté, ce serait passer sur une isolation thermique respectueuse de l'environnement. On a travaillé notamment avec un centre de formation qui est connu, le Greta Viva 5 de Die, qui est intervenu sur ces trois dernières années, sur des aménagements de chambres, sur la création d'une salle spectacle dans une cave, toujours avec des matériaux anciens, chaux, sable, d'ambonil, terre, voilà. Donc des matériaux qui sont respectueux de l'environnement et finalement sur des matériaux qui étaient déjà utilisés du temps des moines. Donc finalement, on essaye de respecter un petit peu ce qui se faisait avant, mais avec un petit peu plus de technicité moderne, quoi. Mais voilà.
Il est protégé au niveau du patrimoine, ce bâtiment ?
Pas du tout, ni inscrit, ni... voilà, donc on est assez libre, mais en même temps, on doit quand même respecter...
Désir, quoi,
on doit respecter un certain cachet pour que, effectivement, le charme ne soit pas rompu, quoi.
Parle-nous, Stéphane, on avait commencé tout à l'heure de l'offre, de toute l'offre. Allez, on y va, on fait la promo.
Alors, la promo. Donc, c'est un centre d'accueil international, comme je le disais tout à l'heure, où on accueille des groupes qui viennent faire essentiellement des stages à vocation culturelle, mais pas que.
Culturel, ça veut dire quoi ?
Culturel, donc c'est des gens qui viennent faire des stages, par exemple, des stages de théâtre, de musique, de chant, de peinture, de danse. La semaine prochaine, là, on accueille une association qui vient faire de la danse persane, par exemple. Et puis, cet été, en juillet, on a une grosse association belge, parce qu'on a beaucoup de Belges, surtout sur la période de juillet, où là, on va avoir quatre stages différents, où ils vont mêler à la fois du théâtre d'impro, de la peinture, de l'écriture, de la photo. Enfin, c'est très, très divers.
Et ça, c'est ils prennent le lieu, c'est pas ouvert au public, c'est pour leur organisation à eux.
Quand c'est possible, on ouvre les stages au public d'Iwa, quand il reste des places. Ça permet effectivement de mélanger les publics. Et c'est une certaine richesse à la fois pour le groupe, pour nous. Donc effectivement, les gens du DIWA, on va peut-être venir faire que le stage, mais ne prendront pas la prestation hébergement restauration, encore que ça peut arriver. Mais effectivement, sur certains stages, il y a quelques places qui sont proposées au DIWA, qui seraient éventuellement intéressées par les stages proposés par ces organisateurs étrangers. Donc nous, effectivement, on n'organise pas stage, on n'est pas prestataire, on n'organise pas de stage. On est là uniquement pour, si je puis dire, accueillir, héberger et restaurer les gens dans les meilleures conditions possibles. Voilà pour les stages. Et sinon, on accueille aussi donc des familles. On l'a fait donc dernièrement, tout récemment, pour le week-end de Pâques, pour, par exemple, un anniversaire ou pour un mariage ou pour une cousinade. Donc, généralement, les familles, là, c'est plus des gens qui viennent de la région Rhône-Alpes ou PACA, qui viennent donc, ou parfois même du monde entier, hein, quand les familles sont éclatées, et ils viennent se retrouver sur 2-3 jours pour faire la fête ou pour juste se retrouver. Et pareil, on leur propose une prestation complète, en pension complète ou en demi-pension, et on leur met à disposition les salles dont ils ont besoin.
Ensuite ?
Alors, ensuite. On fait très peu, mais on le fait de temps en temps, ce qu'on appelle de la location sèche. La location sèche, c'est la location d'un espace, puisque l'avantage ou l'un des atouts du monastère, c'est qu'on a plusieurs salles à disposition. On a la grande salle parquet qui fait 100 mètres carrés, on a la salle chapelle, 35 mètres carrés, la salle en bois, 40 mètres carrés, et la salle des fêtes, qui a été renommée la salle des Antonins, tout récemment, qui fait 200 mètres carrés. Ces salles donc sont dévolues essentiellement effectivement aux stages ou aux rencontres familiales. Ou éventuellement à des rencontres des gens du village, par exemple, pour une fête de village ou pour la fête des chasseurs. Ou, voilà.
Ça, c'est l'ensemble de votre offre. Et alors après, on va parler de l'offre culturelle quand même.
L'offre culturelle, c'est un petit plus. En fait, c'est le site, ce n'est pas sa fonction première. Hein. Sa fonction première, c'est une fonction touristique. Et le volet culturel, en fait, c'est pour, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pour rendre le lieu vivant, pour faire connaître le bâtiment, le site à des gens qui le connaissent juste de nom ou qui l'ont vu comme ça du bord de la route. Voilà. Mais c'est pour amener des gens par un volet donc musique, théâtre, danse, et de découvrir ce lieu et peut-être d'y revenir dans un cadre familial ou dans le cadre d'un stage.
Et alors là, il y a eu notamment des associations avec, je vais le dire deux fois, des associations avec des associations du coin pour développer des petits événements, voire même des gros événements. Et puis vous-même, vous programmez.
Alors nous, on programme en lien donc avec les compagnies, les troupes, les groupes qu'on peut trouver. Généralement, c'est vrai qu'on essaie de travailler le plus possible avec les gens du Diwa, de la Drôme, parce que c'est plus facile, parce qu'on connaît mieux le réseau, parce que ben il y a des frais de déplacement moins importants. L'idée principale, c'est de faire connaître, en fait. C'est pas forcément d'avoir des pointures, mais c'est de faire connaître des groupes, des petites compagnies qui ont du mal à tourner, qui trouvent pas forcément de lieu de résidence, parce qu'on fait aussi résidence pour celles et ceux qui le souhaitent. Alors résidence, c'est un gros mot, hein, parce que généralement quand on parle de résidence, on voit plus dans des théâtres ce genre de choses. La résidence, c'est généralement on met à disposition une salle, on met éventuellement à disposition un technicien, on met à disposition éventuellement des chambres, éventuellement un repas. Nous, on est beaucoup plus dans une offre beaucoup plus modeste. Nous, on met en disposition une salle de répétition, moyennant une adhésion de 50 euros. Qui est valable toute l'année. Donc la compagnie, le groupe, la troupe peut venir récupérer, répéter une semaine, deux semaines pendant la période, j'allais dire, plutôt hivernale ou automnale, parce que c'est plus compliqué pour nous d'accueillir des résidences en pleine saison quand on a des clients. Et puis en contrepartie, ces compagnies, eh bien, elles viennent proposer leur spectacle. Ça va être le cas notamment avec une compagnie de Nantes qui a fait une résidence cet hiver et qui va proposer sa création qu'elle a faite ici même, qu'elle va proposer en avant-première ici au monastère.
Capsule. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Avec toi Stéphane Hugan pour l'association des Amis du Monastère et ici à l'ancien monastère de Sainte-Croix, est-ce que tu pourrais nous rappeler qui a porté le projet actuel dans lequel tu travailles ?
Au tout début, c'est vrai que le propriétaire, quand il s'est retrouvé sans gestionnaire, se retrouvait autour d'une table et Frédéric donc, était autour de cette table. Il a dit bah, « écoute, moi ça m'intéresse, moi j'ai laissé mes oreilles traîner un petit peu puisque je connaissais un petit peu le lieu ». Et donc quand on est parti, on peut le dire, Fred et moi, on est un peu à l'initiative du projet, enfin en tout cas de la reprise. Le projet après il s'est construit dans le temps et c'est pas fini, il est en cours. Donc après, on est allé donc chercher quatre pointures du Diwa qui sont connues, hein, Alain Lecoq, Vanessa Melzen, Hervé Bossan et Emmanuel Jude. Depuis, la présidence a changé. Hervé Bossan est toujours coprésident. Et on a deux nouveaux coprésidents, Alex Finistori, qui est bien connu pour sa bière, et puis Jörn, qui est un agriculteur de la Baie de Quin.
Jörn Schmidt, voilà, c'est ça.
Exactement.
Et on parlait de Fred Sauvage, le co-gestionnaire en ta compagnie sur cette aventure. Est-ce que tu peux nous donner un budget, des moyens humains et financiers 3 ans plus tard ?
Alors c'est vrai que la première année, on a démarré, on était une association toute simple, on va dire. On était autour d'un chiffre d'affaires de 160 000 euros TTC. Et puis très vite, on a dû passer à la TVA. Et au jour d'aujourd'hui, on est plutôt sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 250 000 euros hors taxes. Voilà. En moyens humains, on a démarré tout petit, hein, puisque voilà, on a démarré à deux sur 7 mois et demi. Et puis au jour d'aujourd'hui, on est à 4,3 équivalent temps plein. On sera à presque 5, je pense, l'année prochaine.
Et la partie associative, c'est combien de bénévoles ?
Alors la partie associative, si on parle uniquement du conseil d'administration de l'association, c'est 15 personnes. Mais si on voit les gens qui sont mobilisés sur les chantiers collectifs, c'est vite 40-50 personnes qui gravitent autour. Et on arrive à avoir, on va dire, entre les adhérents physiques, c'est-à-dire personnes, c'est à peu près entre 60 et 90 personnes selon les années. Et en termes de structure, donc collective, des groupes, c'est une cinquantaine par an.
L'implication de la mairie de Sainte-Croix ou d'autres de la vallée de Quin ou de ses habitants là-dedans ?
Alors, l'implication des habitants de Sainte-Croix et de la vallée de Quin, et même du Diwa, est importante. Moi, elle me surprend toujours. Hein. C'est vrai que je suis toujours assez surpris de la mobilisation des gens. Mais je crois que c'est, en fait, les gens sont vraiment attachés à ce lieu. Il y a très peu de patrimoine bâti dans cet état, dans le Diwa, et je pense que voilà, ça joue. C'est pour ça que nous, c'est la première chose qu'on a faite avec Fred hein, quand on est arrivé, c'est qu'on a ouvert les portes. Hein. C'est vrai que jusqu'à présent, le bâtiment fonctionnait un petit peu en vase clos. Beaucoup de gens connaissaient le monastère, mais ne savaient pas vraiment ce qui s'y passait. Donc l'idée, c'était vraiment d'ouvrir et de finalement de dire aux gens, bah, voilà, le monastère, bah, ça fait partie de votre patrimoine. Venez voir. Vous n'êtes pas obligé de venir travailler avec nous, mais en tout cas, de venir voir un spectacle, manger un bout, discuter. Voilà, le lieu est ouvert et ça, c'est important.
L'heure d'un bilan, 3 ans plus tard, des points positifs et des points négatifs, s'il y en a.
On va dire que le bateau est sorti de son hangar. Maintenant, avant qu'il navigue vraiment, il y en a pour encore quelques années. Les points noirs, c'est les gros travaux qui arrivent. Là, il faut savoir qu'on a dans ce bail, on a 9 ans pour réaliser les travaux. C'est à la fois beaucoup et peu. Donc là, c'est vrai qu'on est à fond sur, notamment sur les statuts de la SIC. On aimerait, d'ici la fin de l'année, pouvoir constituer cette société et coopérative de manière à pouvoir après enclencher le partenariat futur, aussi bien avec les locaux, aussi bien avec les fournisseurs, aussi bien avec les clients, aussi bien avec les partenaires institutionnels. Que ce soit la commune de Sainte-Croix, que ce soit la communauté de communes, que ce soit le conseil général et la région et l'État, et voire plus si possible. On va tout faire pour que ce bâtiment puisse reprendre un peu des couleurs.
On va terminer par les contacts. Alors, si vous êtes une compagnie, vous l'avez entendu, vous pouvez venir faire des résidences étonnantes, en tout cas dans ce lieu. Vous pouvez proposer des spectacles, vous pouvez louer des parties de monastère ou voir le monastère en entier. Vous pouvez venir passer des vacances tout simplement et faire de la rando dans le Vercors. Qui contacte-t-on ? Donne-nous tout, le site internet, la totale.
Alors, un numéro de téléphone d'abord tout simple, basique, hein, le 04 75 21 22 06. Une boîte mail, on va essayer de faire simple, contact au singulier, hein, @le-6 monastère.org. Donc tout ça sans majuscule et sans accent. Et puis un site aussi simple, www.le-6 toujours monastère.org.
Vous êtes même d'ailleurs sur les réseaux sociaux, si on peut le dire. Hein.
Oui, bien sûr, sur Facebook, bien entendu, pour les plus jeunes, hein, parce que moi je suis un peu réticent à ce genre de domaine, mais c'est vrai que on a pas mal de clients qui viennent ici, faut le dire, par le bouche à oreille, parce qu'en fait c'est quand même la meilleure des pubs. Et puis on a adhéré à quelques sites internet qui nous permettent aussi de recevoir d'autres clients.
Capsule. Stéphane Hugan, co-gestionnaire du monastère de Sainte-Croix, l'ancien monastère de Sainte-Croix, pardon. Merci pour cette présentation.
Ben, merci à vous hein, et bonne suite.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Air Diwa et Radio Saint-Ferréol.
Top. Un programme soutenu par BioValley.